Parlez-moi.
Alors aujourd'hui, on reçoit Mathieu Longatte. Mathieu Longatte, tu es réalisateur de la série Narvalo. Est-ce que tu peux nous pitcher la série en quelques mots ?
Alors, je suis nul en pitch, mais en gros, à chaque fois, on rentre dans un groupe de potes, on se retrouve au milieu d'un groupe de potes, et il y en a un qui va se mettre à raconter une anecdote marquante ou la dernière dinguerie qui lui est arrivée, et on va se projeter avec lui dans l'anecdote, quoi.
J'ai l'impression que c'est plutôt des galères, des anecdotes.
C'est souvent des galères, oui. C'est des histoires de narvalo, quoi.
Alors, dans cette série, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin d'épisode, c'est toujours un morceau de rap.
J'écoute beaucoup de rap, c'est la musique que j'écoute le plus. C'est la musique que j'écoutais peut-être encore plus à l'âge des personnages. Il y a quand même une grosse âme urbaine. Enfin, j'ai du mal, pour moi, c'est pas une série sur la banlieue, mais ça se passe en banlieue. Et c'est vrai que bah, voilà, le rap prend une place particulière en banlieue. Et ça me paraissait logique, du coup, que ce soit du rap qui illustre. Et en plus, j'ai la chance de connaître voilà, des rappeurs très talentueux et j'ai bénéficié de leur talent.
Tu me disais qu'à chaque épisode, tu changeais de morceau.
Ouais, à chaque fois, c'est un morceau différent à la fin de chaque épisode. Ouais.
Et dans quel but tu fais ça ?
Parce que pour moi, ça, à chaque fois, c'est des morceaux et même des parties du morceau qui sont choisies précisément et que c'est l'occasion ou de faire découvrir un artiste que moi, j'aime beaucoup ou de redonner un peu une respiration à la fin à l'épisode, enfin qu'il y a encore du contenu artistique à prendre pendant le générique, parce que sinon il y en a juste des noms qui défilent et là bah, on a de la bonne musique en plus et je trouve ça cool plutôt que d'avoir le même truc comme souvent dans les séries quoi.
Est-ce que tu peux nous dire les artistes qui ont participé à la série ?
Ouais, alors il y en a pas mal. Du coup sur les génériques de fin, il y a Dooms, il y a Népal, il y a Bigaranx, qui est pas un rappeur mais qui allait très bien avec l'esprit aussi. Kazé, pour moi, une des meilleures rappeuses françaises. Il y a deux titres à moi aussi du coup parce que je sors mon album cette année. Et il y a Taipan aussi et il y a La Craps. Et je suis en train de me dire si j'oublie quelqu'un, me faire sa tête, c'est pas sympa, ça me crée des problèmes après. Normalement on a tout le monde là.
Tu les choisis comment ? C'est des relations à toi ou c'est des rappeurs que t'aimes bien ?
C'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on a un budget très très réduit sur Narvalo, donc c'est vraiment des gens qui me font quasi don de leur talent. Mais moi, c'est que des gens que j'écoute dans la vie, qui souvent, je trouve, ne sont pas assez écoutés. Donc il y a aussi ça, pouvoir faire profiter à d'autres gens, parce que des fois, c'est juste que le rappeur n'est jamais tombé dans notre oreille et je me dis que c'est l'occasion de faire tomber des bons rappeurs dans l'oreille des gens, quoi.
Tu leur donnes un peu d'exposition, tu penses, en faisant ça ?
Bah, du moins, il y a des gens qui pourront les découvrir. Après, c'est vraiment moi qui ai l'impression de bénéficier. Enfin, pour moi, c'est eux qui me rendent service, pas du tout l'inverse, quoi.
Tu disais que t'écoutais beaucoup de rap quand t'étais jeune. Comment t'as découvert le rap et qu'est-ce que t'écoutais ? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dedans ?
Je sais pas, je crois que c'est la radio, parce que j'ai écouté du rap très très jeune et mon grand frère, on a que 3 ans d'écart, et lui, il a été très très rock, donc je sais pas à quoi ça s'est joué. Peut-être au premier album, je crois le premier album je crois que j'ai acheté avec genre de l'argent de poche, je crois que c'était l'école du micro d'argent.
T'as pas pris le plus mauvais pour commencer
non,
ça ?
Non, ouais, c'est pas mal. Non, je suis bien tombé, mais je suis tombé à la bonne époque aussi, hein, parce que du coup, c'était époque Full Sector A, il y avait. Doc Gynéco, pas très longtemps après au collège il y avait Temps Mort de Booba. J'ai dit MC Solar déjà.
Non pas encore.
Donc voilà MC Solar aussi qui... Et c'est vrai que ça a beaucoup participé à. En gros j'ai lu et tout dans ma vie, mais ça a beaucoup participé à ma construction politique, le rap, parce que le rap il était très politisé avant, beaucoup plus que maintenant. Et du coup je sais pas si c'est l'énergie qui s'en dégageait ou si j'ai toujours été un des premiers trucs que j'ai écouté c'est Brassens. Donc en vrai il y a plus un rapport au texte et c'est vrai que à cette époque là il y avait la chanson française ou le rap pour aller chercher du texte quoi, essentiellement. Il restait un peu de rock mais il y en avait déjà de moins en moins.
C'est vrai que là dans tous les rappeurs que t'as cités quasiment il y a un rapport aux mots assez fort. T'as cité que des rappeurs français aussi, donc c'est intéressant de...
Ouais donc il y a un rapport au texte. Non clairement il y a un rapport au texte. Je fais partie. Il y a plein de gens pour qui c'est l'inverse, mais moi c'est vrai que j'écoute toujours. C'est pas dire que je peux pas écouter, j'écoutais beaucoup de rap US aussi, mais ouais j'ai un rapport au texte avant d'avoir un rapport à la musique et c'est souvent le texte qui m'accroche l'oreille avant le beat.
À quel moment tu t'es dit bah je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais me mettre à faire du rap moi-même ? Est-ce que t'en as fait avant ? Et est-ce que là, ta notoriété, elle fait que tu as plus de facilité à te lancer ou tu l'aurais fait ?
Non, c'est pas ça. J'ai failli en faire en 2010. J'avais commencé à écrire des textes. Et puis après, je m'étais dit, j'étais tombé, je sais plus, sur Orelsan à la radio. Je me suis dit, bon, y a déjà quelqu'un qui rappe la flemme. Et à l'époque, j'avais que ça à raconter. Je vais faire la même chose que lui. Et à l'époque, bref. Et en fait, c'est en 2015, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait le Comité des reprises, qui animait Wax et PV Nova. Et c'était un truc assez qualitatif où des gros artistes venaient faire une reprise. Donc c'était des Aloe Black. Il y avait pas que des rappeurs, hein. Il y avait Christine and the Queen, il y avait Orelsan, il y avait Lino aussi qui était venu. Et en gros, moi, je suis venu faire un inédit parce que je le connaissais. Et j'ai plafonné la chaîne, je sais plus, j'ai fait 2 millions de vues, je crois, sur mon premier rap. Du coup, après, j'ai été pas mal sollicité par les maisons de disques, mais je me sentais pas hyper légitime. Enfin, ça nécessitait de l'apprentissage. Et à force d'écouter la radio, je me suis dit, cousin, s'ils le font, tu peux le faire. Et du coup, j'ai signé chez Capitol en 2017. Et depuis, j'ai rien fait parce que je suis très fainéant. Mais le confinement, Mais le confinement aidant, j'ai eu un peu plus de temps, je me suis mis un peu sur le truc et du coup j'ai pu commencer à enregistrer des titres. Et du coup avec la série, vu que j'avais déjà laissé passer la saison 1 sans mettre mes titres, là je me suis dit frérot, tu peux pas laisser passer la saison 2 sans mettre tes sons dedans, parce que si tu t'aides pas, personne va t'aider. Et du coup ça m'a mis une deadline et là j'ai avancé, normalement l'album il sort dans l'année. Là.
Et ça sera tout son propre nom ou t'as un nom de rappeur?
J'ai un nom de rappeur, je sais pas, mais non, c'est encore un autre pseudo, c'est Mathéos. Les gens qui travaillent avec moi, ils en peuvent plus, parce que là-bas, c'était le Bonjour Tristesse. Après, pour la scène, c'est Mathieu Longage. Enfin bref, je fais que des trucs anti-stratégiques qui n'amusent que moi. Mais bon, Mathéo, c'est mon surnom, c'est comme ça. Et puis vu que ça va être... à chaque fois, je fais pas les trucs pour faire les trucs, c'est-à-dire que la musique, ça me permet d'écrire autrement. Moi, j'ai beaucoup parlé publiquement, j'ai beaucoup écrit et parlé, mais je parle très peu de l'intime, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et la musique à l'écriture, ça me pète une barrière de pudeur, donc... Vu que ça va être différent, je vais parler de mélancolie, d'amour, de mort, des thèmes sur lesquels les gens n'ont pas l'habitude de m'entendre. Je trouvais que ça avait du sens de donner un autre nom au truc. Et puis sinon, c'est mon surnom. Voilà. Parce que les gens, vu que je suis l'alcoolique du groupe, les gens disaient toujours quand il faut faire la fête, demande à Mathéos. Et moi, du coup, c'est
resté. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un vrai sens parce qu'il y a la capsule Bonjour Tristesse dont on va parler. Tu as Narvalo où tu as ton vrai nom pour le coup. Et puis là, tu as un nom de rappeur. C'est comme si tu faisais trois activités.
Ouais, je balise un peu les domaines. Ça, ouais. Quoi. Et puis j'ai tendance à penser qu'en plus, vu que c'est assez différent. C'est aussi l'occasion d'aller chercher d'autres publics. Par exemple, la musique, je pense qu'il y a des gens qui kiffent Bonjour Tristesse, qui ont kiffé Narvalo, qui vont pas forcément aimer la musique. Et à l'inverse, il y a des gens qui détestent Bonjour Tristesse, etc. et qui pourront peut-être être touchés par la musique. Donc, vu que les gens, souvent, ils se font une idée d'une personne uniquement via une œuvre ou un type d'art, vu que moi, je tape sur plusieurs trucs et que je les fais pas pour les mêmes raisons. Par exemple, si j'avais mis les Bonjour Tristesse en musique, j'aurais été Bonjour Tristesse et j'aurais fait mon album Bonjour Tristesse. Mais là, il va y avoir des sons politiques, mais ça va pas être la globalité du truc. Donc, il y avait l'idée, ouais, de montrer qu'il y a un peu différentes identités aussi en fonction des domaines dans lesquels je m'amuse. Quoi.
Tu parlais de tous les rappeurs que t'aimes et certains que tu connais. Est-ce qu'ils t'ont aidé, ils t'ont donné des conseils ou est-ce que t'as fait ça vraiment en full indé, tout seul
Alors j'ai beaucoup fait ça en full indé, mais après voilà, c'est l'amicalité quoi. Je leur demande aussi, si bien sûr, je leur demande des conseils. Ils m'ont permis aussi d'accéder à des beatmakers. Ils ont une écoute et une oreille que j'ai pas, et puis c'est des gens très directs, donc quand ils trouvent ça éclaté, ils me disent frérot, c'est éclaté, n'y va pas. Donc non, c'est bien, ça me met 2-3 balises, parce qu'en plus là, je suis en pleine éducation de mon oreille et de cet univers, donc non, ça m'est très nécessaire d'avoir des gens plus aguerris pour me mettre 2-3 balises de temps en temps, quoi.
Ça me fait rire, mais t'as vraiment des mecs qui t'ont dit non, mais là, c'est claqué, n'y va pas, tu vas pas y arriver
Non, jusqu'ici, j'ai eu de la chance, mais ouais, sur une maquette, ouais, tout le monde dit frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, peut-être plus tard, mais là c'est du sabotage. Ouais, ça m'est arrivé sur un truc.
Du coup, ça te remet à zéro? Tu te remets en question ou tu te dis bah non, moi j'ai vraiment envie de faire ça?
Après, je peux me battre sur des trucs, mais des fois, ouais, moi, trois personnes en qui j'ai confiance totale, que je sais qui ont une sensibilité à ce que je fais et qui me disent frère, tu es en train de prendre un sens interdit, le prends pas. Ouais, je les écoute, faut les écouter, les amis de temps en temps. Les amis honnêtes, parce qu'en plus, quand on commence à faire des trucs artistiques, c'est. Et qui ont marché un peu, tout ça, c'est très important de garder des gens qui peuvent te dire c'est de la merde, parce que vu qu'il y a souvent même il n'y a pas trop de repères, c'est pas trop pourquoi ça marche pas. Tu peux vite te retrouver avec des gens qui disent que tout ce que tu fais est génial et c'est faux. Donc non, il faut garder de l'écoute sur ses potes qu'on sait honnêtes, et c'est très important de garder un entourage de gens qui te disent quand t'es nul.
On parlait de Bonjour Tristesse, donc ça c'est le côté politique de ta carrière. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le concept?
Ouais, en gros, Bonjour Tristesse, c'était une chronique d'actualité un petit peu en roue libre, en plan séquence sur YouTube. Mais en vrai, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Quand tu regardes Bonjour Tristesse, il y a déjà tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si tu regardes les intros de Bonjour Tristesse, elles étaient plus ou moins slamées, rimées, donc en vrai c'est l'aspect musique. Le développement, en vrai, c'est mon spectacle, sauf que bon, le spectacle c'est beaucoup plus marrant, plus dense humoristiquement. Et la fin, les big up, je finissais par 2-3-4 anecdotes de gens qui avaient fait des dingueries. En fait, c'est Narvalo, mais je m'en étais pas rendu compte, parce que à la base je fais Bonjour Tristesse pour apprendre l'écriture, moi. Et c'est comme si mon brouillon il a percé, mais c'était pas prévu, parce que je voulais m'exercer à l'écriture et je sais que si je me mets pas la pression d'un public, je ne fais que bédave. Et du coup, j'ai lancé, en fait là, ça a pété à la troisième vidéo, mais après j'en aurais quand même fait 100, donc j'ai beaucoup appris et appréhendé l'écriture via ce prisme. Ouais, en vrai, il y avait déjà mes envies d'écriture et artistique, elles étaient déjà toutes dans Bonjour Tristesse, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps.
Est-ce que ça veut dire que tu vas devenir ce qu'on appelle un rappeur conscient? Tu vas parler de politique aussi et de l'état de la société, surtout en ce moment avec les élections, etc.
Il y aura des chansons politiques, comme je te disais tout à l'heure, du coup je fais pas de la musique pour ça, mais il y en aura parce que voilà, ça me fait du bien et que j'ai des textes aussi que je veux faire, donc ce sera pas l'essentiel de la musique, mais ouais, je me ferai 2-3 défouloirs de temps en temps, parce que je crois que ça me fait beaucoup de bien, et j'ai l'impression que ça fait du bien. Je suis pas le seul, donc... Et effectivement, c'est un peu une place qui est désertée par le rap français à notre époque, alors qu'on vit une époque politiquement dramatique. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, les rappeurs, ils avaient plein de trucs à dire. On prend les mêmes, là, pour parler de maintenant, je ne sais même pas ce qu'ils pourraient dire, à part des flux d'insultes, tellement le degré de régression de notre époque, en termes politiques, en termes de vivre ensemble, en termes de précarité, il est dramatique, donc...
Justement, toi qui as connu la fin des années 90, le rap, il a perdu un peu cette fibre politique.
Voilà, ouais, qu'il ait perdu la fibre politique, ouais, c'est absolument certain. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? J'aime pas faire partie de ceux qui disent c'était mieux avant, tout ça. Déjà, dès qu'on commence à mal parler de la nouvelle génération, je pense qu'il faut être très vigilant, parce qu'on est souvent à ça de devenir un vieux con. Et c'est souvent une bascule qui peut arriver tardivement. Vous voyez, là, on voit même des artistes qu'on kiffait à 60 ans, bim, ils basculent, ils se mettent à dire des dingueries. Du coup, cousin, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Oh! Et du coup, moi, je fais très attention. Donc, je dis pas le rap, c'était mieux avant. Après, ce que j'ai aimé dans le rap me manque beaucoup actuellement, ouais. Et surtout, encore une fois, moi, par exemple, comme je te disais, ça a beaucoup participé à construire ma personnalité politique, mon rapport à l'engagement. Et c'est juste que je trouve qu'il y a un manque à gagner dans ce qu'on peut mettre dans la tête des jeunes en termes d'envie, quoi. Tu vois, parce que ouais, je crois pas que ce soit une fin en soi d'avoir une montre à 50K quand c'est des vrais, les amis, parce qu'arrêtez de croire que c'est tous leurs montres. Il y a beaucoup de luck et il y a beaucoup de falch. Il y a pas tant de gens que ça qui gagnent très bien leur vie avec le rap. Et du coup, oui, je pense que ça crée des cheminements plus profonds et plus ancrés. Enfin bref, que c'est important de politiser, parce que voilà, si tu t'intéresses pas à la politique elle s'intéresse à toi, t'inquiète pas. En vérité, on braque toujours le projecteur sur le rap là-dessus, mais dans l'humour, c'est pareil. On doit être trois à parler de politique, à défendre des choses. Enfin, en vrai, ça touche dans la fiction, c'est pareil. En vrai, ça touche tous les domaines artistiques. Après, le rap était tellement identifié engagement et engagement qui amenait à des conséquences. Parce que voilà, il y avait NTM qui se retrouvait condamné, Sniper qui ont été suremmerdés. Et c'est trop marrant parce que Sniper, je les ai vécus comme des bêtes de rappeurs, mais j'étais ado. Mais avec le recul, quand je réécoute les textes, je dis putain, ils avaient des couilles, ils ont dit des dingueries. Très engagés, ça faisait partie, voilà, des gens qui bougeaient les lignes aussi de la liberté d'expression. Et s'ils se disent, est-ce qu'on a le droit de dire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça? Et là, on en est où? C'est-à-dire que sur l'aspect de l'engagement militant de gauche, il n'y a quasiment plus rien. Et en vrai, ceux qui testent les limites de la liberté d'expression, là, c'est les fachos, quoi. C'est les gens d'extrême droite. Ah, on peut dire ça maintenant, telle dinguerie, wow! Et ouais, il y a une inversion du travail sur les frontières de la liberté d'expression qui m'inquiète, quoi. C'est plus les gens d'extrême gauche qui disent des dingueries, on se dit est-ce qu'on a le droit de dire ça, c'est des gens d'extrême droite qui monopolisent l'espace public, et je pense que c'est gravissime. Et on le voit, hein, on le voit sur la nouvelle génération, moi je le vois là, sur les profils Zemmour, c'est beaucoup ou des très jeunes ou des très vieux, quoi. Et ça raconte pas rien, quoi. Puis c'est incarné par des gens qui subissent les politiques, donc il y a aussi un truc de sincérité qui s'en dégageait, qui rend le truc, je sais pas comment dire, adhésif, mais attractif en tout cas, via la sincérité. Et puis même, du coup, la sincérité aussi, ça peut complètement t'amener à projeter dans des problématiques qui sont pas les tiennes, mais du coup, à les ressentir, enfin c'est le principe de l'art, quoi, mais à les ressentir à la place de la personne. Et voilà, développer l'empathie, c'est développer son humanisme, c'est développer son engagement pour l'humain. Donc je sais pas si c'est la faute du rap, mais je suis inquiet que, du moins dans l'art en général, il y a aussi peu de place qui soit prise sur l'engagement. Et les convictions, parce qu'en vrai, voilà, c'est juste dire, pas forcément insulter frontalement les politiques. Par exemple, Kenny Arcana, ce qu'elle fait, c'est fondamentalement politique. Ça va être rare qu'elle parle, va pas faire des dissertations sur les premiers ministres, etc. Cazet, ce qu'elle fait, c'est fondamentalement politique. Et pourtant, c'est des beaux textes poétiques, quoi. Donc, ouais, il y a mille manières de le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand espace en ce moment, quoi.
Et enfin, pour finir, tu parlais d'Orelsan et de la flemme, et t'as l'air de te considérer un peu aussi feignant que lui. Tu sais que c'est un des rappeurs qui travaille le plus, et à t'écouter, t'as quand même un album en cours, tu viens de faire deux saisons d'une série, t'as fait de l'impro, t'as fait.
J'ai mon spectacle au République tous les vendredis. Spectacle tous les vendredis au République.
On peut pas dire que tu sois un flemmard.
Si, alors franchement, je suis pas un bluffeur. Déjà, tous les gens qui me connaissent de près en sont témoins. Je travaille vraiment moins de 7 heures par semaine, mais genre grand max. Je suis très, très, très fainéant. Mais en fait, je prends tellement de retard dans mes trucs. Par exemple, mon album, je l'ai signé en 2017 avec Capitol, les amis. Donc en fait, là, ça crée un bouchon parce qu'il y a la série, le spectacle, le truc en même temps. Mais contractuellement, ça devait sortir en mars 2018. Enfin bref. Donc en fait, à force d'accumuler les retards, ça donne l'impression d'un coup que je suis hyper actif, alors qu'en vrai, ça fait 6 ans que je m'en vais rien. Voilà, mais par contre, quand je me tape des tunnels de boulot, quoi, par exemple la série Narvalo, c'est un truc que je prends, enfin, c'est 5 mois, pas de ma vie condamnée, mais ouais, et puis vu que dès que je fais quelque chose artistiquement, j'ai très peur de me foutre la honte. Enfin, je veux faire des choses dont je suis fier, au-delà de me foutre la honte, c'est parce que j'ai réussi à m'en émanciper. Ce qui fait que ça me fait de moi un travailleur malgré moi, mais c'est des moments très resserrés, quoi. Ça va être 3-4 mois max, après je pars à la plage fort.
Génération Hip Hop Soul Radio.